Bonjour, c'est avec plaisir que nous vous présentons le point sur le diabète, le balado où l'on se penche sur les dernières avancées en matière de pratiques exemplaires dans le domaine des soins du diabète personnalisé. Je m'appelle Chantal Parenteau, je suis endocrinologue dans la région de la Mauricie et je serai votre hôte pour cette séance. Pour m'accompagner, je peux compter sur Dr. Yves Robitaille, qui est spécialiste en médecine interne, qui est actuellement directeur médical au Centre de médecine métabolique de Lanaudière, dans lequel il pratique depuis 2016. Très impliqué dans plusieurs projets de recherche en cardio-métabolique. Il est diplômé également de l'American Board of Obesity of Medicine depuis 2020. C'est un conférencier actif que vous avez sûrement déjà entendu à plusieurs reprises, très bon vulgarisateur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des conseils pratiques pour la prise en charge du diabète de type 2 chez les personnes atteintes de néphropathie. Bien, bonjour Yves.
Bonjour Chantal.
Alors, écoute, on va commencer en posant une question tout simple. À quel point les néphropathies sont-elles répandues dans la clientèle diabétique de type 2?
Écoute, c'est très prévalent, la néphropathie diabétique chez nos patients diabétiques type 2. Selon les sources qu'on regarde, là, on a de 20 à 50 % de la population diabétique type 2 qui fait atteinte d'une néphropathie chronique quelconque. Un des problèmes qu'on a dans l'identification de ces patients-là, c'est que souvent les gens oublient que la néphropathie diabétique peut être de deux ordres. On va parler d'un taux de filtration glomérulaire en bas de 60 millilitres par minute par mètre carré. Ça, je pense que c'est assez connu. Mais il y a un aspect qui est important aussi, qu'on a tendance peut-être à oublier ou qui est gardé dans un angle mort, c'est la microalbuminurie, c'est le ratio albumine sur créatinine. Et dès qu'il y a une élévation du ratio albumine-créatinine de façon soutenue et qu'on n'a pas identifié d'autres causes à cette élévation-là, bien, on se retrouve encore une fois en situation de néphropathie chronique. Il y a Normand Proulx, qui est un néphrologue qui pratique dans la région de Gatineau, qui, pour moi, a donné la meilleure image par rapport à ça. Si on considère que le degré extrême de néphropathie chronique, c'est la dialyse, bien, l'image qu'il nous donnait, c'était que le taux de filtration glomérulaire, dans le fond, c'est la distance qui précède la locomotive du mur, alors que le ratio albumine sur créatinine est la vitesse à laquelle la locomotive se déplace vers le mur. Donc, les deux éléments sont vraiment importants. Puis, dans le dépistage, il faut vraiment évaluer les deux.
Puis, effectivement, puis chez les patients atteints de diabète de type 2 qui ont une néphropathie diabétique, la microalbuminurie veut dire souvent une atteinte, c'est cardio-métabolique, c'est-à-dire une atteinte, en fait, vasculaire. Donc, on voit souvent, tu me corrigeras, mais la carte thermique, comme on appelle, justement, va nous permettre, comme en abscisse et en ordonnée, la microalbuminurie et le taux de filtration glomérulaire, nous dire, en fait, dans quelle zone qui part du vert jusqu'au rouge où notre patient est à risque de problèmes cardio-vasculaires. Alors, je ne sais pas, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises beaucoup en pratique pour tes patients?
100 %. Je pense que chaque soignant devrait avoir dans son sous-main, sur son bureau, cette carte thermique-là. En effet, là, où vraiment, là, tu sais, on a sous forme colonne les différents degrés de taux de filtration glomérulaire et ça mis en parallèle avec les degrés de microalbuminurie. Et il y a une coloration qui va du vert au jaune, au orange, au rouge, qui, en fond, qualifie le risque qu'a notre patient soit d'évoluer vers une maladie rénale terminale ou de présenter des événements cardiovasculaires majeurs. Et vraiment, cette charte-là met en relation l'importance d'avoir les deux. Tu sais, les recommandations, c'est de dépister au minimum sur une base annuelle par un dosage de créatinine, un calcul de taux de filtration glomérulaire estimé et par un dosage de ratio albumine-créatinine. Deux éléments qui sont importants. Je suis d'accord avec toi que le ratio albumine-créatinine marque probablement plus un dommage vasculaire généralisé, puis probablement que le taux de filtration glomérulaire est la conséquence rénale de ce qu'on voit. Il n'y a pas toujours de la microalbuminurie chez nos patients qui ont patients diabétiques type 2, qui ont une néphropathie diabétique. Parce que vous savez, ce qu'on a appris, la lésion de Milstein-Wilson, C'est vraiment la lésion pure du glomérule chez nos patients diabétiques, mais la maladie rénale d'un patient diabétique type 2, elle est multifactorielle. Alors, c'est un mélange de contrôle glycémique, de tension artérielle, de dyslipidémie, de facteurs inflammatoires générés par la disposopathie, etc., etc., etc. Ce qui fait que la néphropathie diabétique chez les patients diabétiques type 2 peut se présenter de n'importe quelle façon.
Puis, est-ce qu'il y a des signes avant-courants?
Ma vision de la chose, tu auras peut-être une vision différente, mais pour moi, c'est que malheureusement, non. Les patients vont être symptomatiques quand ils sont urémiques. En dehors de ça, la seule façon qu'on a vraiment de dépister précocement la maladie la néphropathie diabétique, c'est en faisant les analyses sur une base annuelle. La majorité de nos patients diabétiques qui ont une néphropathie sont à un stade qui est asymptomatique. Fait qu'il ne faut pas négliger l'aspect laboratoire. Je ne sais pas si toi, tu as une vision un peu différente de moi, non?
Non, écoute, c'est pas mal. C'est un peu ce que je voulais te faire ressortir, c'est qu'en fait, les patients sont asymptomatiques, puis c'est en fait de ne pas oublier de le faire dès le diagnostic, parce qu'en fait, le diabète de type 2, contrairement au diabète de type 1, on ne sait jamais depuis quand ils sont diabétiques, donc c'est d'emblée qu'il faut le faire. Donc, ce qu'il faut ressortir là-dedans, c'est quand on veut faire le dépistage puis un suivi adéquat de cette complication-là, c'est de faire le taux de filtration glomérulaire et de faire la microalbuminurie, le ratio albumine-créatinine, c'est essentiel. C'est sûr que des fois, est-ce que c'est un oubli? Faut en fait se trouver des trucs au final pour pas l'oublier. Moi, probablement comme toi, quand je vois mes patients, c'est automatique à savoir quand est-ce que ça a été fait. Si ça n'a pas été fait, bien, je lui demande pourquoi il ne l'a pas fait. Et après ça, on insiste sur la pertinence de ça. Puis la pertinence est que il y a des traitements. Alors, je te laisse un peu discuter des traitements qui ont évolué, disons, depuis le dernier consensus qui devrait, en fait, peut-être être mis à jour, mais ça a évolué énormément.
Bien, du côté américain, du côté européen, ça bouge un peu plus vite que du côté canadien, là, pour différentes raisons administratives, je dirais. Je pense que, souvent, on le néglige, la prise en charge multidisciplinaire demeure quelque chose d'important. On peut réduire les risques de différentes façons par modification des habitudes de vie, modification alimentaire. Évidemment, toutes les études récentes ont eu tendance à mettre en lumière que les médicaments sont capables de moduler les risques cardio-rénaux, indépendamment du contrôle du diabète, mais ça ne veut pas dire qu'on doit occulter le contrôle du diabète. Moi, je pense que la réduction de l'A1C demeure un élément important. Et on est chanceux parce qu'en 2024, bientôt 25, on a des molécules qui permettent de descendre l'A1C sans risquer les hypoglycémies. Après ça, on sait qu'une introduction d'un médicament de l'acétamine d'angiotensine d'aldostérone, donc pas inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou un bloqueur des récepteurs de l'aldostérone, ça demeure encore, ça fait partie des trois piliers maintenant, là, qu'on peut retrouver encore dans les lignes directrices de KDIGO, le KDIGO. Donc, l'introduction à dose maximale tolérée. Plus la dose est élevée, meilleure est la protection. On a, depuis quelques années, mis clairement en évidence que les inhibiteurs du SGLT2, indépendamment du contrôle glycémique, vont ralentir la progression de la maladie rénale. Puis on sait que ces molécules-là peuvent repousser la dialyse de l'ordre d'un 10 à 15 ans. C'est pas négligeable. Plus récemment, on a deux nouvelles molécules. Il y a la finérénone qui a été mis de l'avant, qui a des propriétés anti-inflammatoires, là. Un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes qui a des propriétés anti-inflammatoires et qui a un impact positif sur le ralentissement de la progression de la maladie rénale. Et dernièrement, on a eu la publication d'études FLOW avec la sémaglutide 1 mg chez les patients diabétiques avec une maladie rénale quand même assez sévère, avec une réduction de l'ordre de 20 à 25 des principaux endpoints en bon français de cette étude-là. Donc, on a maintenant des données, on l'avait vu dans les études préliminaires, hein? On a maintenant des données dans une étude qui est vraiment ciblée maladie rénale, comme quoi les agonistes de récepteurs de GLP-1 ont aussi un effet néphroprotecteur. Donc, ça devient vraiment multifacettaire. Contrôle de l'A1C, modification des habitudes de vie, un médicament de l'actinine d'angiotensine d'aldostérone, inhibiteur du SGLT2, finérénone et agoniste des récepteurs du GLP-1. Puis un jour, je pense que nos néphrologues ne se plaindront pas d'être une espèce de chômage d'avoir moins de ces patients-là.
Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est, oui, ça a un impact, mais l'impact est majeur quand tu instaures ça rapidement ou précocement dans la néphropathie. C'est sûr que plus tu vas introduire toutes ces méthodes-là ou tous ces médicaments-là tôt dans la néphropathie diabétique, ben en fait, plus en fait, tu vas protéger ton patient de cette finalité qui est la dialyse. Donc, moi, je pense que on a appris, évidemment, tu as des patients que tu vas l'instaurer plus tard parce que tu n'avais pas ces connaissances-là actuellement. Mais quand on regarde la littérature là-dessus ou quand on lit là-dessus, on se rend compte qu'il y a un bénéfice de débuter ça tôt pour permettre aux patients, en fait, d'éviter ou de repousser au plus tard cette problématique.
Absolument. Puis, je pense que c'est un endroit où on doit faire notre mea culpa. Toi puis moi, on a grossièrement la même expérience clinique en termes de longévité, j'entends, là. On a vu passer beaucoup de lignes directrices. Puis malgré tout ce qu'on voit, tout ce qui a été publié, tout ce qui est tout ce qui a été publié, tout ce qu'on discute, on reste encore avec une inertie thérapeutique. C'est globalement comme population de soignants. C'est quelque chose qui doit être adressé, puis être agressif dans la prise en charge de nos patients. On est beaucoup mieux outillés aujourd'hui pour traiter les facteurs de risque qu'on l'était, toi et moi, quand on a commencé notre pratique.
Puis, en fait, il y a peut-être un point qui est important, ou je ne sais pas, mais quand on demande aux patients leur taux de cholestérol, ils sont toujours contents de nous dire qu'ils ont la cible, mais quand tu leur parles de leur maladie rénale, on dirait qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas c'est
Bon
quoi.
point.
Puis, écoute, eux autres, ils ne comprennent pas, en fait, le pourquoi qu'on est agressif là-dessus. Fait qu'il faut toujours prendre le temps de comprendre s'il y a une bonne compréhension de la néphropathie, parce que le problème avec cette maladie-là, c'est qu'elle est asymptomatique. Elle devient symptomatique quand la maladie est malheureusement trop avancée et que tous ces médicaments-là qu'on a ou toutes ces interventions-là qu'on a ne donneront. En fait, c'est trop tard pour les introduire. Donc, je pense que ça, c'est important dans l'éducation des patients, de les informer de leur fonction rénale. Moi, je me fais maintenant le devoir de leur dire. Votre fonction rénale est à temps, votre microalbuminurie est à temps, puis je leur explique c'est quoi. Puis là, je pense qu'après ça, les gens vont revenir au prochain contrôle, puis ils vont s'en informer, puis je leur dis, écoutez, une régression, ils sont contents. Alors, tu sais, je pense qu'il faut l'expliquer au patient parce que si on veut que le patient embarque dans toute cette multitude, en fait, ou cette. On se le cachera pas, c'est quand même une charge pharmacologique importante, mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Fait que s'il y a une compréhension, habituellement, ça va bien. S'il n'y a pas de compréhension, ben là, les patients vont peut-être contribuer à cette inertie-là ou ça peut être le soignant aussi. Quand tu expliques pas, ben, tu vas contribuer de façon indirecte à cette inertie-là.
Ouais. Si on veut aider nos auditeurs à expliquer l'importance de la maladie rénale, et il faut aller vers quelque chose qui est plus peut-être tangible pour les patients, quelque chose dont ils ont un peu plus peur. Puis, les événements cardiovasculaires, il reste que c'est une cause importante de morbidité et de mortalité chez nos patients qui ont une maladie rénale chronique. Là. Puis quand on prend en charge une maladie rénale chronique, on fait pas juste repousser la dialyse, on réussit à aussi retarder les événements cardiovasculaires. Fait que je pense que ça peut être une façon d'aller le jouer. Là.
Effectivement. Alors, écoutez, peut-être pour terminer notre enregistrement, quel conseil on pourrait donner pour aider nos patients atteints d'un diabète de type 2 qui a une néphropathie, en fait, là, pour améliorer leur sort ou pour, en fait, améliorer leur néphropathie?
Ça reste un élément déterminant, là. Tu me donneras tes inputs après, mais c'est un vrai challenge d'amener nos patients à modifier leurs habitudes de vie dans leur plan de traitement, même leur faire prendre les médicaments de façon adéquate. Ça reste un vrai casse-tête. Il faut mettre le patient au centre de nos décisions. Toutes les décisions doivent être prises de concert avec le patient. Il faut qu'ils comprennent. Fait qu'on revient un petit peu à ce que tu disais tantôt. Pour que nos patients comprennent c'est quoi les impacts d'une maladie rénale, qu'est-ce que ça veut dire sur bien des plans, c'est quoi la réalité d'une personne qui va se retrouver en dialyse, revenir sur l'importance des événements cardiovasculaires. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, éduquer le patient. Fait que l'importance de la prise en charge multidisciplinaire dans cette maladie-là est centrale pour que tout le monde passe le même message. Puis je pense que quand on implique les patients, quand on y va pas par petit poste, puis on y va avec des objectifs, c'est des objectifs qu'on appelle SMART, là. Donc, qui sont réalisables, mesurables, puis on met des timelines dans tout ça. On peut arriver à faire changer nos patients, mais la clé, pour moi, c'est l'éducation pour la discussion avec les patients.
Effectivement. Puis, c'est pas compliqué, c'est pas juste le DFG, c'est le RAC urinaire. Puis évidemment, le RAC urinaire, ben moi, comme je dis à mes patients, on fait pas ça quand on est allé faire du jogging la veille, on fait pas ça quand on a une fièvre, on fait ça quand on est stable pour qu'on ait des valeurs qui sont fiables aussi. Alors ça, c'est important aussi. C'est un petit détail qui est peut-être mineur, mais qu'il faut quand même là, s'en assurer que c'est fait dans des bonnes conditions.
Absolument.
Alors écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, ben écoute, je te remercie, Yves, de nous avoir si bien outillé de toutes les nouvelles données pour la prise en charge, en fait, d'un patient diabète de type 2 atteint d'une néphropathie. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés sur le balado, le point sur le diabète. Nous espérons que notre discussion sur la prise en charge de la néphropathie diabétique vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes ou Spotify et restez à l'affût des prochains épisodes. Alors, je te remercie, Yves.
Merci beaucoup. À la prochaine.
OK. Bye-bye.
Bye.